Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cette fois, c'est la dernière ligne droite de la campagne présidentielle américaine qui débute cette semaine avec demain soir le premier des trois débats télévisés entre Donald Trump et Joe Biden. Le président sortant républicain et son adversaire démocrate vont se rencontrer à Cleveland dans l'Ohio. C'est l'un des états clés qui peuvent faire basculer l'élection le 3 novembre. Cette rencontre, ou plutôt cette confrontation, sent la poudre tant la campagne est polarisée. Donald Trump n'a pas de mots à assez dur contre son adversaire qui se présente comme l'exact contraire du locataire de la Maison Blanche. Ce débat peut-il changer le cours de la campagne présidentielle américaine ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui dans ce studio. Nous avons le plaisir d'accueillir Paul Shore. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférences en civilisation américaine à l'Université de Paris. Et par téléphone, Nicole Bacharan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, co-auteur de First Ladies, qui vient de sortir aux éditions Tempus, et aussi Le Monde selon Trump, tweet, mensonge, provocation, stratagème, pourquoi ça marche, c'est aux éditions Talendier. Et également en ligne, Laure Mandeville, bonjour. Laure Mandeville, on vous entend pas. Donc vous êtes grand reporter au journal Le Figaro, responsable de la page hebdomadaire Débat autour du monde qui ausculte le monde à travers le débat d'idées et auteur de Qui est vraiment Donald Trump aux éditions des Équateurs. Ce sera donc à Cleveland, mais ça pourrait aussi bien se passer dans un grand hôtel casino de Las Vegas. Étant donné l'ambiance qui ressemble un peu à celle de la veille d'un combat de boxe, Paul Shore, à quoi vous attendez-vous ?
Alors, on peut s'attendre à ce que Donald Trump fasse son numéro habituel, avec des pics, des agressions, des propos outranciers, et que Biden essaye d'apparaître comme, justement, le candidat plus raisonnable, posé, expérimenté. Et je pense que des deux côtés, ils vont essayer de déstabiliser l'autre, puisque, en fait, on a quand même deux candidats qui sont tous les deux maintenant très bien connus des électeurs. Et plutôt que, je pense, chaque camp espère plutôt que l'autre trébuche, plutôt que de faire apparaître son propre candidat sous un nouveau jour.
Nicole Bacharan, c'est ça l'idée, c'est de ne pas faire de faute et d'attendre la faute de l'adversaire, ou est-ce que l'image du combat de boxe que j'utilisais vous paraît appropriée?
Elle me paraît appropriée, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, chacun va essayer de pousser l'autre à la faute et de ne pas en commettre soi-même. Une des choses, en fait, moi, qui me frappe dans la période où on est, c'est que quand je pense à ce débat qui va être beaucoup, beaucoup regardé, car les enjeux sont très forts, eh bien, ça va être une des rares fois, dans ces dernières 3-4 ans, que des dizaines de millions d'Américains vont regarder le même programme. Parce que l'information, les infos, les news sont tellement cloisonnées. Un camp n'a pas du tout les mêmes informations et même pas du tout les mêmes faits que l'autre. Et là, pour le coup, ils vont certainement pas juger les deux candidats de la même manière, mais ils vont voir le même événement. Et je trouve que c'est assez intéressant de réaliser à quel point, au fond, c'est rare que l'événement soit commun, vu en même temps.
C'est intéressant, cette idée, Paul Shore, parce qu'effectivement, la société est polarisée entre diverses opinions politiques, mais les gens ne s'informent pas de la même manière. Ça, c'est presque nouveau, en fait, dans cette campagne électorale.
Disons que ça s'est beaucoup renforcé, et c'est vrai que l'autre chose aussi qui est particulière dans cette campagne, notamment du côté de Joe Biden, c'est qu'il y a eu... Joe Biden n'a pas fait campagne de façon classique, c'est-à-dire qu'à cause du Covid, il n'a pas fait de meeting, il a fait très peu de rencontres avec les électeurs. Et du coup, ça donne de l'importance à ce débat parce que finalement, il y a eu peu de grands événements au cours de cette campagne. Et c'est vrai que comme le disait Nicole Bacharan, aujourd'hui, les choses sont très polarisées. Les personnes qui regardent Fox News ne s'informent pas du tout de la même façon que ceux qui regardent CNN. Donc ils vont voir le même débat, mais c'est aussi pour ça en même temps qu'il est possible que peu de gens changent d'avis à l'issue du débat, quoi qu'il se passe, tellement les positions sont déjà arrêtées. Et puis si on ajoute à ça le fait que certains ont déjà commencé à voter par correspondance ou en avance dans les États où c'est possible, Il y aura sans doute, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait 100 millions de personnes qui regardent ce débat. Donc, il y aura certainement des gens qui vont changer d'avis sur les 100 millions. Mais il n'y aura pas forcément non plus de mouvements tectoniques importants dans la mesure où, justement, il semble que le débat politique aux États-Unis est plus partisan et polarisé que jamais. Et Trump a beaucoup contribué à ça, à ce que on va pas voir beaucoup, les deux candidats dire à un moment à l'autre « je suis d'accord avec vous
». Nicole Bacharan, je reviens sur cette idée. Il y a de nombreux Américains, en tout cas beaucoup plus que d'habitude et pour cause de pandémie, qui ont déjà voté par correspondance. Est-ce que ça limite l'intérêt et le poids de cet exercice, de ce débat ?
Oui, c'est vrai. Je rejoins ce que disait Paul Shore. Quand on regarde les débats du passé, c'est très rare que ça fasse bouger réellement les opinions. Il faut un effondrement, il faut un moment vraiment tournant. On pourrait en faire l'histoire ensemble, mais franchement, il y en a très peu. Et moi, tout ce à quoi j'ai assisté en général, chaque camp dit « Ah ben c'est mon champion qui a gagné ». Mais par contre, le vote anticipé, le vote par correspondance, oui, c'est une deuxième raison de faire que l'opinion peut varier. Le vote a déjà commencé, et au fond, le 3 novembre, c'est le dernier jour pour voter. Mais on vote, en gros, à différents niveaux dans tout le pays, pendant tout le mois d'octobre. Et puis, ce qui me frappe également, pour renforcer cette idée-là, c'est que si on regarde les sondages nationaux, qui évidemment ne sont qu'une indication, on a bien retenu que l'élection se gagnait état par état. Mais les sondages nationaux donnent quand même une vraie indication sur l'état de l'opinion, et ça fait 3-4 mois que ça ne bouge pas. Il y a 8 à 10 points d'écart entre Joe Biden et Donald Trump depuis plusieurs mois, et tous les scandales et tous les événements et toutes les crises n'ont rien changé à cela.
Alors on va en reparler bien sûr, mais Paul Scheuer, je vais faire appel à votre qualification d'historien. Est-ce que vous avez le souvenir ou en tête des débats qui ont fait basculer ce vote ? Est-ce que c'est déjà arrivé ?
Oui, alors il semble, ce qu'on montre souvent, mais effectivement ça remonte à très longtemps, c'était comment John Kennedy justement était apparu télégénique pour la campagne de 1960 et avait montré justement, avait sans doute lui fait basculer.
C'était le premier débat de l'histoire de la télévision américaine d'ailleurs, le débat présidentiel ou pas loin en tout cas.
Oui. Alors, en tout cas, c'est le premier qui a été effectivement aussi important. Oui. Et là, cette année, on va avoir 3 débats. Je pense que le premier sera aussi le plus important des 3. Les 2 suivants sont sans doute moins importants. Aussi pour ce qu'on disait précédemment, plus on avance dans le temps, plus il y aura des gens qui auront déjà voté ou des gens qui auront déjà pris leur décision. Donc il y a quand même un enjeu sur ce débat parce que d'une certaine manière, et avec effectivement l'avance qu'a Joe Biden dans les sondages, c'est plutôt, Trump qui doit essayer d'inverser la tendance avec le débat.
Oui, Nicole Bacharan, Joe Biden, vous le disiez vous-même, est plutôt bien placé dans les sondages, et ça dure depuis un moment, même si, et vous le disiez aussi, il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence, mais Donald Trump, il a besoin de marquer des points. Est-ce qu'il va donc être forcément offensif, voire agressif ?
C'est son seul mode de fonctionnement, de toute façon. On voit qu'à part dans les rares moments où il est uniquement parmi les gens qu'il adule ou parmi sa famille, il est constamment très en colère, très agressif. Donc je ne doute pas qu'il soit effectivement très en colère et très agressif. Il déteste Joe Biden, il veut persuader l'opinion que Joe Biden est fini, épuisé, trop mou pour résister à ce que Donald Trump appelle les radicaux d'extrême gauche, les terroristes, les anarchistes. Donc oui, il va être très offensif. Qui plus est, ça va un peu dans le même sens, mais il adore la bagarre, il adore le combat, et là, c'en est un. Il est parfaitement capable, évidemment, de mentir et de dire des choses fausses et choquantes, mais il est parfaitement capable aussi dans la bagarre d'apparaître quand même très cohérent dans son raisonnement à lui. Donc je ne doute pas, oui, qu'il soit en effet très offensif.
Paul Shore, est-ce qu'il peut être physiquement intimidant, comme il l'avait été avec Hillary Clinton il y a 4 ans, lorsqu'il l'avait poursuivi à travers la scène dans l'espace où se déroulait le débat.
Oui, c'est vrai qu'il y avait ce moment étrange, mais je pense qu'avec Joe Biden, ça, à mon avis, ça se passera autrement.
Pourquoi ? Parce que c'est un homme, on va le dire directement.
Oui, parce que je pense qu'effectivement, Trump a voulu, à mon avis, intimider Hillary Clinton d'une façon un peu typiquement machiste. Et puis, Joe Biden a quand même, c'est un homme politique depuis 50 ans, en fait, qui a de l'expérience, qui va pas se laisser impressionner. Mais c'est vrai qu'il faudra que Joe Biden, disons, garde son calme face au flot de contre-vérités, d'accusations, d'injures que Trump risque de lui envoyer. Certains commentateurs disent que justement une des faiblesses de Joe Biden, c'est que quand il est en colère, il perd un peu ses nerfs. Mais je pense qu'il a dû être très préparé là-dessus. On sait que les candidats se préparent avec des conseillers qui prennent le rôle de l'autre. Et puis on connaît maintenant un peu les tactiques de Trump. Je veux dire, ils ont dû revisionner les débats avec Hillary Clinton. Et puis ça fait 4 ans qu'il est président. Mais c'est vrai que, comme disait Nicole Bacharan, on doit s'attendre à ce que Trump soit outrancier, soit agressif. Mais ce que Trump vise, c'est pas de, je pense, ce sera pas de prendre l'ascendant sur Biden, ça sera de placer des formules choc qui vont ensuite être reprises par les médias, et en particulier les médias qui lui sont favorables. Mmh. Et c'était un peu ce qu'il a toujours joué, c'est-à-dire qu'il est quand même plus quelqu'un pour Twitter et les médias courts. Les qualités, sans doute, d'homme d'État de Biden, qui vont être peut-être ses faiblesses relatives, c'est qu'il prend du temps à vouloir expliquer les choses. Et donc là, Biden va devoir sans doute aller contre ses habitudes, ne pas faire des grands discours, utiliser des mots compliqués, mais essayer d'être dans un rythme un peu plus rapide qui serait plus celui de Trump.
Nicole Bacharan, comment ça se prépare un débat comme ça ? On s'entraîne avec des conseillers qui jouent le rôle de l'autre. Est-ce qu'on écrit à l'avance des petites phrases qui font mal, voire qui tuent éventuellement ?
Oui, vous avez complètement raison. Oui, en général, on s'entraîne avec un conseiller qui joue le rôle de l'adversaire ou de l'autre candidat, avec des conseillers également qui fournissent des tas d'éléments sur tous les sujets possibles et imaginables. Également, en étudiant le fonctionnement du journaliste qui va être le modérateur. Et demain, ça sera Chris Wallace qui est sur Fox News et qui est un journaliste très rigoureux, pas facile du tout, qu'on ne peut pas balader. Alors, pour ce que j'ai pu apprendre de la préparation des deux candidats, celle de Joe Biden correspond tout à fait à ce que Paul Shore vient de décrire. Il semble que Donald Trump n'ait pas eu un faux Joe Biden en face de lui, qu'il n'ait pas beaucoup travaillé, qu'il se fie surtout, comme d'habitude, à son instinct, et que la recherche de forme de choc, de la phrase qui tue, oui, ça l'a quand même pas mal occupé, lui ainsi que son équipe.
Paul Shore, Donald Trump avait demandé, avant-hier, est-ce que Joe Biden subisse un contrôle antidopage avant ou après le débat ? Est-ce qu'il peut ressortir avec cette idée ?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie, enfin, c'est même plutôt contrôle anti-drogue, pas seulement dopage, mais je pense, l'idée, c'est les insinuations de Trump et de sa campagne sur l'idée que Biden physiquement est trop vieux et n'est plus mentalement assez vif pour être président des États-Unis, sachant qu'en fait la différence d'âge entre les deux candidats n'est pas très grande. Trump a dit ça, mais ça fait partie, je pense, des vantardises de Trump, comme quand il avait dit qu'il avait réussi un test de QI très difficile. Et puis une fois qu'on a vu les questions, on s'est aperçu que c'était un test pas difficile du tout.
Un test de niveau CM2, si je me souviens bien.
Voilà. Mais en fait, Trump, en fait, effectivement, il lance des choses comme ça parce que son jeu, c'est de ridiculiser l'adversaire. Mais c'est vrai qu'il reste quand même avec sa personnalité de télé-réalité, c'est-à-dire marquer des points rhétoriques, attraper la lumière, faire l'intéressant devant les caméras. Mais Je pense que voilà, la plupart des électeurs américains qui vont regarder ne vont pas se faire attraper. C'est-à-dire, soit ils sont déjà favorables à Trump et ils vont trouver ça drôle, soit...
Ils attendent le spectacle, hein, comme s'ils regardaient son reality show The Apprentice, c'est à peu près ça, non?
Oui, alors sauf que je pense que les électeurs de Biden n'aiment pas beaucoup ce spectacle. Mmh. Enfin, le spectacle qui s'est substitué à un genre de politique plus classique. Et Biden, justement, a tout intérêt à donner l'image de quelqu'un qui va ramener un peu de normalité. Je pourrais presque dire, faire une comparaison avec la France, qui va apparaître comme un président normal.
Nicole Bacharan, Joe Biden est-il aussi faible et mou et endormi que Donald Trump le laisse penser?
Alors écoutez, moi j'ai quand même beaucoup de souvenirs de Joe Biden comme quelqu'un, comme le décrivait Paul, qui parfois part dans des longues explications un peu alambiquées, des fois il perd le fil de son raisonnement. Il ne faut pas oublier non plus que c'est quelqu'un qui était bègue quand il était petit, donc qui a fait beaucoup d'efforts et de travail sur son élocution pour maîtriser ce problème, et que ça ressort encore parfois dans, comment dire, quelque chose d'un peu forcé, d'un peu travaillé. Quand il est ému, quand il s'énerve, et apparemment il a préparé le débat en sachant que Donald Trump avait essayé de le faire tout simplement sortir de ses gonds. Donc on verra son niveau d'énergie. Mais par ailleurs, il y a une chose, je crois, à laquelle il faut penser, c'est que Joe Biden, franchement, c'est un homme qui n'a peur de rien. Il n'a pas peur de Donald Trump. La vie lui a infligé de tels coups. Je rappelle que quand il avait 29 ans, sa femme et sa petite-fille de 2 ans ont été tuées dans un accident de voiture, ses 2 fils grièvement blessés, et que en 2014, un de ses fils, justement, qui était évidemment adulte, est mort d'un cancer du cerveau. C'est des épreuves telles que ça a fait de Joe Biden non seulement un homme politique qui a 47 ans d'expérience derrière lui, mais réellement, on ne peut pas l'intimider. Mmh. Alors, on peut dire aussi que Donald Trump n'a peur de rien ni de personne, c'est dans un tout autre style. Mais pour ce qui est de Joe Biden, ça, c'est une certitude.
Oui, Paul Shor, Joe Biden, il est en politique depuis pratiquement 50 ans, alors donc il a quand même l'expérience de ce genre d'exercice. Hein. Il a été vice-président de Barack Obama, et on le rappelle qu'il existe des débats entre candidats à la vice-présidence. Quel genre de débatteur est Joe Biden ?
Il a été assez bon, en fait, historiquement, et c'est vrai qu'aussi son expérience à la fois, il a été candidat à beaucoup de choses, il a gagné beaucoup d'élections, il a participé à plusieurs débats comme vice-président. L'incertitude, c'est autour de son âge, c'est de savoir s'il est aussi bon qu'il l'était il y a quelques années. Et cette incertitude est venue de la campagne des primaires, où on a eu l'impression que par moment, il était un peu déconnecté des débats, surtout quand il y avait beaucoup de candidats.
Il a été d'ailleurs déstabilisé un moment par sa propre celle qui est devenue sa colistière.
Oui, Kamala Harris, oui. Qui lui avait renvoyé quelque chose d'assez... Une question, il avait un peu de mal à se justifier sur la ségrégation, parce que Biden ayant été élu, effectivement, il y a presque 50 ans, et élu aussi très jeune au Sénat, avait des relations cordiales avec des sénateurs qui défendaient la ségrégation, et ce qui était la culture du Sénat de l'époque, qu'ils étaient tous entre eux, et sont pratiquement que des hommes, à être chaleureux et cordiaux entre eux, et aujourd'hui, bon, on le lui reproche.
Un peu comme la buvette de l'Assemblée nationale en France, c'est ce que vous voulez
expliquer. Du Sénat.
Voilà, c'est ça, absolument.
Voilà, mais... ce qu'on a vu aussi quand même, c'est que Biden, bon, il a des tactiques à lui, par exemple de montrer en souriant et en étant poli qu'il considère qu'une question n'est pas vraiment de son niveau et qu'il va pas forcément répondre à toutes les attaques. Mais on a vu dans les débats avec Sanders que même s'il avait, disons, peut-être un programme politique avec moins de contenu, dans un débat à deux, il se débrouillait plutôt bien, et ça c'était il y a quelques mois encore. Mmh. Donc moi je pense pas qu'en quelques mois il ait décliné, qu'il ait perdu toutes ses capacités.
Nicole Bacharan, qu'est-ce que vous avez à dire sur le Joe Biden débatteur dans cet exercice?
Ben écoutez, j'étais en train de penser en écoutant Paul Shor à 2008, donc quand Joe Biden était candidat vice-président pour être avec Barack Obama, et en face de lui, pour le débat du vice-président, il avait donc une femme, Sarah Palin, colistière de John McCain à l'époque, et Sarah Palin, bon, elle a fait un parcours assez particulier, je ne sais pas si tout le monde se souvient d'elle, mais en tout cas, il n'y avait qu'une seule inquiétude dans le camp démocrate, c'est que Joe Biden ne la massacre, parce qu'il peut, oui, être vraiment très dur, très, très redoutable dans les débats.
Ce que vous voulez dire, c'est que Donald Trump va trouver à qui parler, c'est possible ça?
C'est possible. C'est bien, d'ailleurs, je vais vous dire, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, et si Donald Trump, effectivement, trouve à qui parler, je crois que les sondages ne bougeront pas.
Il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'on a l'impression, quand on a regardé la convention républicaine, qu'il y avait beaucoup de membres de la famille de Donald Trump qui étaient autour de lui. Est-ce que il y a une tendance chez Donald Trump depuis des mois et des mois à attaquer Joe Biden sur sa famille et notamment sur les affaires de son fils? Est-ce que c'est deux familles qui sont face à face dans cette affaire? Est-ce que il y a la famille de Joe Biden qui aide Joe Biden comme celle de Donald Trump et derrière lui Paul Scholl?
Non, parce que en fait, ce que Donald Trump a fait, c'est qu'il a mis sa famille au pouvoir. Il a envahi la Maison Blanche avec un clan, en plaçant les gens de sa famille, non pas autour de lui comme membre de la famille, mais avec des fonctions politiques, y compris son gendre. Et on voit, par exemple, dans le dernier scandale là, retentissant que le New York Times vient de sortir sur les impôts de Trump, qu'apparemment, une partie de l'argent qu'il a sorti de son entreprise est allée dans la poche de conseillers dont il s'avère que ce sont ses enfants. Donc, en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire Trump va certainement essayer de embarrasser Joe Biden avec les histoires en Ukraine, avec son fils qui a été faire des affaires en Ukraine. Mais je pense que c'est quand même une accusation qui n'a pas tellement pris auprès du public. Enfin, ça a pris auprès des Républicains, et surtout ceux qui regardent Fox News, qui a beaucoup parlé de ça. Mais Biden va jouer quelque chose de plus classique. Il va dire s'il est élu, il va arriver avec une équipe de gens qui ont une légitimité propre, comme Kamala Harris, comme d'autres qui ont de l'expérience. Mais pas qu'il va arriver avec ses enfants, ses petits-enfants, son beau-frère, qui va installer dans des positions de pouvoir.
Nicole Bacharan, il a quand même sa petite sœur, qui est très proche de lui, qui le conseille et qui l'a aidé à toutes les élections auxquelles il a participé. Ça peut être un angle d'attaque supplémentaire pour Donald Trump, ça?
Je ne pense pas, parce que ça n'est pas un angle financier. Est-ce qu'il pourrait chercher à dire... ce pauvre Biden ne tient pas debout et il lui faut sa petite sœur pour tenir debout. Non, c'est assez classique que des membres de la famille fassent campagne. On a même souvent vu qu'il est impossible aux États-Unis de se faire élire si on n'est pas en couple. C'est souvent un couple que les Américains élisent, même si pas ensuite ils souhaitent que la First Lady se cantonne à des tâches qui ne soient pas politique, ou au moins qu'elle ne soit pas polarisante. Au fond, ce qui est assez frappant dans le cas de Donald Trump, c'est que sur ces deux tableaux, il n'est pas du tout dans la tradition. Melania Trump est complètement transparente dans cette campagne. Elle n'existe pas, elle parle à peine, et quand elle parle, généralement, ça cause plus de problèmes que ça ne guérit de situation. Mais effectivement, alors là, je rejoins à 100% ce que disait Paul Scholl, la situation actuelle à la Maison Blanche, c'est une situation de népotisme et de corruption inimaginable. Et évidemment, sur cette affaire des impôts, Donald Trump, donc, et Paul l'a expliqué, retirer de l'argent de certaines entreprises, payer ses enfants, dont notamment Ivanka, comme conseillère, et ensuite déduisait ses sommes de ses propres impôts comme frais professionnels. Donc ça va quand même très très loin.
Mais alors sur quoi ça va se jouer sur quel sujet, Paul Scholl? Les impôts de Donald Trump, on en a parlé, c'est sorti hier soir dans le New York Times. Donald Trump, $750 d'impôts en 2016, en 2017, zéro sur 10, pendant 10 des 15 précédentes années, parce qu'il expliquait, quand il faisait sa déclaration d'impôt, qu'il avait perdu de l'argent au fisc. C'est ça qui s'est passé.
Oui, mais là, je pense que les démocrates, enfin, le New York Times a rendu un très bon service à la campagne de Joe Biden en démocrate, parce qu'il y a, au-delà de la complexité du dossier, il y a beaucoup de choses qui peuvent marquer les esprits. Comme vous l'avez dit, il y a Donald Trump qui ne payait que $750 d'impôt sur le revenu par an, les années où il en a payé. Mais il y a aussi une autre idée que je pense que Biden va utiliser. C'est l'idée que, une des choses que Trump avait mis en avant, c'était qu'il était un homme d'affaires très doué. Et là, en fait, ils vont montrer qu'en fait, il est plutôt un escroc qui était souvent au bord de la faillite. Et que, en vérité, l'argument de lui confier le pays parce qu'il sait gérer l'argent ne tient pas. Et que c'est pour ça qu'en fait, Trump a toujours refusé de communiquer ses déclarations fiscales, ce que tous les autres présidents avaient fait avant par tradition. Et là, ils ont un bon argument, parce que Trump a déjà dit c'est des fake news. Mais là, ils vont lui dire, mais puisque c'est des fake news, donnez-nous les vrais documents. Mmh. Et là, Trump, à mon avis, va être vraiment sur la défensive sur ce sujet.
Nicole Bacharan, cette affaire des impôts qui est donc sortie hier soir, qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus? Est-ce que ça peut être... Le New York Times a annoncé qu'ils allaient, pardon du terme journalistique, qu'ils allaient feuilletonner pendant plusieurs jours là-dessus. Est-ce que ça peut être ça, la surprise d'octobre?
Bien
qu'on ne soit qu'en septembre.
voilà, la surprise de fin septembre, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour Donald Trump. Parce qu'on a, deux affaires d'impôts, en quelque sorte. On a, disons, l'optimisation fiscale révélée par le New York Times sur les propres déclarations de Trump, quoi qu'il en dise, enfin, au moins de ses entreprises, qui l'amènent à payer $700 d'impôts. Et puis, on a à New York une enquête pour fraude fiscale et fraude bancaire qui pourrait même l'amener en prison. Et j'ai envie de dire, c'est aussi quelque chose à ne pas oublier quand on voit l'acharnement de Donald Trump de ne pas vouloir quitter la Maison-Blanche. Le jour où il quittera la Maison-Blanche, la suite de sa vie pourrait devenir très difficile. Je dirais un dernier mot, c'est que outre les impôts qui vont prendre leur place, il y a une autre question qui va être fondamentale, c'est celle de la santé. Celle de la gestion du Covid, celle de la situation des Américains face au Covid et celle de la nomination d'une nouvelle juge à la Cour suprême qui est opposé absolument à ce qu'on appelle Obamacare, cette réforme qui a fourni environ 20 millions d'Américains avec une assurance médicale. Et ils pourraient perdre cette assurance médicale, et en ce moment c'est particulièrement dramatique, et je ne serais pas étonné que Joe Biden mette aussi l'accent là-dessus.
Paul Shore, les 200 000 morts américains, plus de 200 000 morts américains de la pandémie de Covid-19, ça va peser demain soir?
Oui, et puis je pense que même ça va se voir parce que il a été convenu que les candidats, enfin les débatteurs, ne porteront pas de masque. Mais moi, je m'attends à ce que Biden arrive avec un masque pour montrer que lui, il fait partie des gens qui prennent au sérieux l'épidémie et que Trump arrive sans masque et que effectivement, il y aura aussi ce clivage que les chiffres, la gestion catastrophique quand même de la Maison Blanche de l'épidémie vont évidemment peser très lourd. Et je pense que oui, Biden va vraiment rejeter la responsabilité sur celui qui est actuellement le président des États-Unis, ce qui est logique. Et si Trump se défend en expliquant que ses chiffres sont très bons et qu'il a très bien géré, ça risque de ne pas très bien passer.
Il s'était donné 10 sur 10 dans sa gestion de la pandémie quand on lui avait posé la question, c'est ça?
Oui, alors au départ, il avait dit que si on était à 100 000 morts, c'était un succès.
D'accord. On est donc à plus de 200 000 ce soir. Ben, je vous remercie chaleureusement, Paul Shore et Nicole Bacharan, d'avoir participé à cette émission. Comme vous l'avez noté, nous n'avons pas retrouvé Laure Mandeville du Figaro. Je crois qu'il y a eu un petit problème de téléphone. Mais merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Arnold Assoa et Florence Ponce à la coordination. Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thurie. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres et bonjour chez vous.